Voilà, je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Yanaï Rung à la présentation.
Bonsoir, Assemblée nationale, le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires proposé par le gouvernement rejeté hier mardi par les députés qui estiment que l'examen de ce projet de loi serait une violation de la Constitution. En quoi l'examen de ce projet constituerait-il une violation de la Constitution? Quelles peuvent être les conséquences de ce rejet sur le fonctionnement du gouvernement? Trois invités participent à cette émission et deux sont avec moi dans ce studio. Il s'agit de Faustin Kambala Ilunga, député national MLC, initiateur de la motion incidentielle ayant abouti au rejet du crédit provisoire sollicité par le gouvernement. Bonsoir honorable.
Bonsoir.
Aubin Minaku, député national, membre de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Bonsoir honorable.
Bonsoir.
Professeur Ambroise Kamukuni, enseignant de droit public à l'université de Kinshasa et dans plusieurs universités du pays. Il est également constitutionnaliste. Il est en ligne. Bonsoir professeur. On me fait signe qu'il va nous rejoindre dans un petit moment. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Vous le savez, le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires proposé par le gouvernement a été rejeté hier mardi par la plénière de l'Assemblée nationale. C'est suite à une motion incidentielle présentée par un député de l'opposition. D'après ce député, l'examen de ce projet de loi serait une violation de la Constitution. Nous recevons dans ce studio Julien Nyamouini. Julien, vous avez couvert cette actualité à l'Assemblée nationale. Quels sont les arguments que le député Faustin Kambala a avancés pour convaincre la plénière?
Il faut dire que l'argumentation du député Faustin Kambala est fondée sur l'article 126 de la Constitution, essentiellement consacré à la loi financière, donc au budget, plus précisément aux alinéas 5, 6 et 7. D'après lui, étant donné que le gouvernement a déposé le projet dont le délai et le Parlement l'a adopté, il est incorrect d'examiner le projet de loi portant ouverture de crédits provisoire au risque de violer la Constitution.
Mais comment expliquez-vous que le ministre de budget, Michel Lokola, soit conspué par les élus?
Nous pensons que le ministre apportera l'éclairage sur cette affaire de recettes additionnelles. Malheureusement, les députés n'étaient pas disposés à l'écouter. Mais il faut souligner que lui-même a réagi quand il a quitté la salle de congrès. En effet, d'après lui, les députés lui ont fait porter la responsabilité d'avoir dit que les recettes additionnelles étaient aléatoires, propos qu'il a rejeté en bloc.
Alors, si les députés ont rejeté le projet de loi portant ouverture des crédits, n'y a-t-il pas des conséquences dans la gestion de l'État?
La réponse à cette question, on la trouve au Sénat. En effet, le président de cette institution a indiqué dans une courte déclaration lors de la plénière de ce mercredi que le gouvernement engage des dépenses et que le moment venu, il devrait être interpellé pour justifier l'utilisation de ces fonds. Question alors, sur quelle base le gouvernement sera-t-il contrôlé? Il semble bien, au-delà de toutes les considérations, il se poserait un problème dans ce sens.
Merci Julien et bonne soirée à vous.
Merci.
Voilà, honorable Faustin Kambala Ilunga, juste rappeler que vous êtes député national MLC, initiateur de la motion incidentielle ayant abouti au rejet du crédit provisoire sollicité par le gouvernement. Pour aider nos auditeurs à bien cerner le contour de la question, en quoi d'après vous ce projet de loi constitue-t-il une violation de la Constitution?
Merci monsieur le journaliste pour la question. Vous l'avez rappelé au départ ici que la motion incidentielle que nous avons soutenue à l'Assemblée nationale trouvait sa base légale dans l'article 126 de notre Constitution. Cet article est consacré essentiellement à l'examen et au vote de la loi de finances. Lorsque nous avons interrogé cette disposition constitutionnelle, nous avons dégagé 5 hypothèses qui peuvent faire en sorte que lorsqu'on est dans une hypothèse, on l'applique. Lorsqu'on est dans une autre, on va l'appeler. Quelles sont ces hypothèses-là? La première hypothèse,
c'est lorsque le projet de loi des finances est déposé dans le délai et que le Parlement n'a pas pu voter cette loi avant la clôture de l'exercice budgétaire. La conséquence, c'est que le président de la République a le pouvoir de mettre ce projet en exécution après que ce projet ait été délibéré en conseil de ministres. La deuxième possibilité, c'est que lorsque le dépôt de la loi de finances par le gouvernement a été tardif et que le chef de l'État s'est trouvé dans l'impossibilité de promulguer la loi avant la fin de l'exercice budgétaire, à ce moment-là, le gouvernement a la possibilité de solliciter les crédits provisoires auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. La troisième hypothèse, c'est lorsque le gouvernement n'a pas déposé le projet de loi de finances jusque deux semaines avant la clôture de l'exercice budgétaire, c'est-à-dire
dans les 15 jours.
Et dans ce cas-là, la conséquence, c'est que ce gouvernement-là est réputé démissionnaire. La quatrième hypothèse, c'est lorsque le gouvernement, se trouvant dans la deuxième hypothèse, a sollicité les crédits provisoires et que le Parlement n'a pas réagi dans les 15 jours. Le président de la République, chef de l'État, va faire exécuter les crédits contenus dans ce projet sollicitant les crédits provisoires.
Cinquième hypothèse.
Et la cinquième hypothèse, c'est lorsque une loi, un projet de loi de finances est déposé et que nous ne nous trouvons pas dans toutes ces quatre hypothèses précédentes et que jusqu'au début du mois de février, rien n'est fait, le chef de l'État, pour ne pas paralyser le fonctionnement des institutions, il fait appliquer le projet initial, bien entendu, tout en tenant compte des amendements ou des observations faites par les deux chambres.
Alors, voilà. D'après vous, on est dans quel cas de figure ?
Maintenant, lorsque nous interrogeons l'article 126, nous nous rendons compte que nous ne sommes dans aucune de ces hypothèses. Puisque ces crédits provisoires qui sont sollicités ne pouvaient se justifier que si il avait été démontré que le gouvernement n'avait pas déposé le projet de budget dans le délai raisonnable et que ce projet n'avait pas obtenu le vote des deux chambres du Parlement avant la clôture de l'exercice. Or, dans le cas de figure, il est démontré et prouvé noir sur blanc que le gouvernement de son côté n'a pas failli à son obligation, il a déposé dans le délai et que les deux chambres du Parlement ont aussi voté le budget avant la clôture de l'exercice. Et comme nous ne sommes pas dans cette hypothèse, nous ne pouvons pas faire référence à l'alinéa 126, je crois que c'est l'alinéa 6, qui prévoit la possibilité d'accorder les crédits provisoires.
Voilà, donc je pense que les auditeurs également ont pu cerner un peu la question. Honorable Aubin Minaku, comment vous avez accueilli le rejet de ce projet de loi ?
Merci. J'aimerais d'abord dire, en toute franchise, que la décision prise par la plénière de l'Assemblée nationale, c'est une décision d'assemblée, un acte d'assemblée, et donc nous devons évoluer, surtout que il faudrait pas tellement dramatiser ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, dans la mesure où aujourd'hui déjà la commission économique et financière est en train de travailler, et selon mes informations, ils ont suffisamment travaillé, ils sont sur le point de signer les procès-verbaux, et donc le budget sera amendé et adopté. Mais au-delà de cela, j'aimerais faire l'interprétation suivante, parce que je dois rester honnête avec moi-même, je suis de ceux qui ont voté contre.
Pourquoi ?
Parce que d'abord, j'ai constaté qu'il y avait un problème personnel, une crise de confiance personnelle entre les députés et le ministre du budget,
dans la mesure où, il faut le dire sans embâche, ce dernier a eu un comportement pas du tout d'homme d'État au cours des dernières semaines, en vilipendant sans raison les députés, lui et ses collaborateurs. D'ailleurs, hier après la plénière, nous en avons vécu l'expérience au cours du journal télévisé à la RTNC. Donc, j'ai constaté que nous étions dans un contexte de passion, de crise de confiance,
de règlement de compte,
et que la réflexion n'était pas du tout évidente. Deuxièmement, la question technique. La question technique tourne autour de la diversité d'interprétation entre les députés. Évidemment, une bonne majorité, même ceux de mon parti, le PPRD, ont voté en faveur de la motion. Et on ne revient pas par rapport à ce vote. J'aimerais dire ceci. Interroger l'article 126 sur le plan juridique, qu'est-ce à dire? Ça signifie prendre d'abord l'article 126, le lire, si tout est clair, il n'y a pas de problème. Il est vrai que l'article 126 de la Constitution reprend les cinq hypothèses reprises par mon collègue. Donc, il ne faudrait pas que je revienne sur ces hypothèses, question de bien gérer le temps. Il est vrai. Mais l'article 126 de la Constitution ne reprend pas du tout l'hypothèse qui nous concernait hier. Quelle est cette hypothèse? Le projet de budget a été déposé en temps constitutionnel par le gouvernement. Le Parlement, Assemblée nationale et Sénat ont adopté le projet du budget, la loi. Ça a été transmis au président de la République pour promulgation, comme de droit. Le président de la République, sur base de ses prérogatives constitutionnelles, renvoie le projet du budget à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture en déterminant les points sur lesquels il fallait de nouveau cogiter et amender le projet du budget. Donc, ça a été adopté, transmis au président de la République. Nous nous retrouvons au mois de janvier sans budget, parce que le président, de bon droit, parce que c'est conformément à ses prérogatives constitutionnelles, appelle une seconde lecture. Voilà, cette hypothèse n'est pas prévue par l'article 126. Comment doit-on réfléchir sur le plan juridique? Comment? Je crois qu'il ne faudrait pas procéder de la façon dont certains le font en analysant la Bible, je m'excuse. Sur le plan juridique, nous devons, face à cette lacune, c'est une lacune malheureuse, l'hypothèse n'est pas prévue, nous interroger sur ce qu'on appelle en droit la ratio legis, la raison d'être des crédits provisoires. Les crédits provisoires en droit comparé, en Belgique, France, partout au monde, les crédits provisoires dans l'histoire constitutionnelle du Congo, ça sert à quoi? C'est cela la ratio legis, l'arrêt d'être d'un mécanisme juridique. Le crédit provisoire sert ou serve, si on les met au pluriel, permettent au gouvernement d'obtenir l'autorisation de l'Assemblée, parce que le budget, c'est notamment une autorisation. L'autorisation de gérer l'État, de dépenser l'argent de l'État, j'utilise des termes simples, dans une période de non-budget. C'est-à-dire dans une période où l'autorisation réelle n'a pas été accordée. Pour qu'il n'y ait pas un vide, il faut allouer les crédits provisoires, parce que ça permet notamment aux contrôleurs que l'Assemblée nationale de contrôler les gouvernements après. Voilà. C'est la question, s'il vous plaît. Deuxièmement,
très rapidement, je vous
remercie. Deuxièmement, au-delà de cette raison d'être du crédit provisoire, analysé en faisant usage du droit comparé, il faut se poser la question, que voulaient les législateurs congolais en rédigeant l'article 126? En tout cas, à mon sens, je crois que je vais revenir à ce sujet. Lorsque l'on analyse les différents paragraphes de l'article 126, l'on décèle certaines contradictions. Mais la trame, la ligne conductrice de cet article 26, c'est que en réalité, les législateurs voulaient que, lorsqu'il n'y a pas de budget au cours d'un nouvel exercice budgétaire, une nouvelle année, il faut
un mécanisme juridique pour que le gouvernement fonctionne comme il se doit. Voilà pourquoi je crois que nous avons un peu commis une petite erreur au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Point de vue personnel.
Voilà.
Mais je respecte la décision d'Assemblée et de l'Assemblée nationale.
Effectivement, nous également, nous respectons la décision, mais c'est pour permettre aux auditeurs et à l'opinion publique de bien comprendre le débat qui se passe au niveau de la représentation nationale. Professeur Ambroise Kamukuni, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer en début d'émission. Vous avez suivi les honorables députés. La grande question se trouve au niveau de la constitutionnalité ou non de l'acte posé par la plénière de l'Assemblée nationale hier.
Oui, c'est un problème effectivement qui se pose. Mais à écouter les honorables députés, Maître Kambala et Monsieur Minakou, on croirait finalement que tout le monde a raison dans cette affaire. Mais le problème qui se pose, en fait, ce n'est pas de savoir si la demande de crédit provisoire pour le moment est inconstitutionnelle ou non. Il s'agit de savoir si cette demande est assise sur une disposition constitutionnelle. Comme quoi, je voudrais dire que dans cette demande, j'ai bien entendu la presse, j'ai lu la presse également, j'ai regardé la presse. Partout, chacun interprète de sa façon. Quant à savoir, est-ce que la demande du gouvernement est inconstitutionnelle? Qu'est-ce qui est inconstitutionnel? Lorsqu'on parle d'inconstitutionnalité, on sous-entend que la décision prise ou l'acte qui est en voie d'être posé ou qui est posé, entre en contradiction avec une disposition constitutionnelle. Si vous voulez, elle est contre la Constitution. Dans ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, il s'est trouvé une situation au fait pratique. Une situation pratique, maintenant que le budget a été renvoyé par le chef de l'État pour une seconde lecture, sur le plan pratique, que faudrait-il faire pour que l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, puisse effectivement avoir la possibilité de contrôler le comportement du gouvernement pendant cette période? Mais malheureusement, je crois que l'honorable Minakou l'a dit, notre Constitution ne prévoit pas cette possibilité de voir le président de la République ou même le gouvernement demander des crédits provisoires alors que toutes les hypothèses prévues par la Constitution ont été utilisées. Dans ce cas, en fait, nous sommes dans un cas pratique de nos droits, dans la mesure où, maintenant que la demande des crédits provisoires est rejeté, le gouvernement ou l'État congolais va-t-il fonctionner ou non? Mais c'est vrai, parler comme ça, ça serait entrer totalement dans la pratique. Est-ce que cette décision, cette demande du gouvernement entre en contradiction avec une disposition constitutionnelle? Je dirais non. C'est vrai, mais je dirais également que cette demande du gouvernement n'est assise, n'est fondée sur aucune disposition constitutionnelle. C'est ainsi que je peux prendre en fait position dans un premier temps. Lorsqu'une disposition n'est pas fondée sur une disposition positive, une disposition du droit positif, peut-on dire en ce moment-là que cette décision ou cet acte est inconstitutionnel ou est illégal? C'est ça encore un autre débat. Mais pour effectivement la plupart des chercheurs en la matière, ne peut être inconstitutionnel qu'un comportement qui viole, qui s'oppose, qui contredit une disposition positive constitutionnelle.
Professeur Ambroise Kamukuni, alors, de façon vraiment simple pour les auditeurs qui nous suivent, hein, qu'est-ce qu'on peut finalement retenir?
On peut retenir qu'il y a une lacune, maintenant, on est dans une situation de blocage, effectivement.
Voilà.
Une situation qui n'avait pas été prévue par la Constitution, qui aurait pu, en fait, prévoir. Parce que lorsque l'article 137 autorise au chef de l'État de renvoyer une loi au Parlement pour une seconde lecture, cet article fait appel à toutes les lois, y compris la loi des finances. Or, cette loi est analysée généralement dans la session de septembre à décembre. Mais vous voyez bien que cette loi peut être déposée à la limite, comme ça a été le cas. Et maintenant que c'est renvoyé, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors,
j'ai entendu l'honorable Inaku dire que c'est un petit problème, on va rapidement adopter les modifications et bientôt le budget sera là. Mais entre-temps, d'ici la fin du mois de janvier, selon quelle procédure légale le gouvernement de la République va-t-il fonctionner?
Alors, professeur Kamukuni, encore une fois, en un mot, l'examen de cette loi était-elle constitutionnelle ou pas? Pour les auditeurs qui nous suivent, très brièvement, je vous en prie.
L'examen de cette loi n'est pas inconstitutionnel.
Voilà.
Pour ma part, parce qu'elle n'entre pas en contradiction avec la Constitution.
Merci, professeur.
Mais néanmoins, l'examen de cette loi n'est pas prévu par la Constitution.
Voilà
ce que je peux dire là-dessus.
Merci beaucoup, professeur. Honorable Faustin Kambala, vous avez suivi l'honorable Minaku. Pour lui, décèle quelque part une certaine vengeance. D'ailleurs, il y a un auditeur, Théo Chamba de Kananga, au Kassai Occidental, qui en parle. Il dit, en rejetant ce projet portant crédit provisoire, les députés ont voulu se venger parce qu'ils ont été mis en cause par le renvoi du budget par les chefs de l'État en seconde lecture au Parlement. Honorable Kambala.
Merci. Les députés, là c'est pour répondre directement à l'auditeur et aborder la question. Les députés ne peuvent pas se venger au chef de l'État. Le chef de l'État a ses missions constitutionnelles. Ce qu'il a fait n'a jamais été désapprouvé par les députés, majorité comme opposition. Puisque sa démarche repose sur une base constitutionnelle, l'article 137, on l'a dit, c'est son droit de renvoyer une loi pour la seconde lecture. Personne ne peut l'en vouloir pour cela. Mais au-delà de cela, on doit revenir sur la constitutionnalité des crédits provisoires sollicités. Nous sommes législateurs. C'est nous qui devons d'abord respecter en premier lieu les lois pour lesquelles nous sommes les artisans. Professeur Kamukuni, comme mon collègue Minaku, j'ai compris que nous sommes allés tous dans la même direction. Le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est un cas non prévu par la Constitution. Or, tout ce que nous pouvons faire en l'espèce ne peut reposer que sur la Constitution et sur le règlement intérieur qui régit notre Chambre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il aller outre ce qui est prévu par la Constitution? Je réponds par la négative. Le professeur dit, en rejetant les crédits provisoires, on ne permet pas à l'État de fonctionner. Non. Puisque les crédits provisoires, la demande de crédit provisoire n'est examinée que hier le 19. Et l'exercice budgétaire a commencé le 1er janvier. Voulez-vous me dire que du 1er janvier jusqu'au 19, à la date d'hier, l'État avait cessé de fonctionner? Non. Et en plus de cela...
A fonctionné sur quelle base?
Oui, je continue. Et en plus de cela, les crédits provisoires qui étaient sollicités hier, si jamais cette demande avait été reçue, ça pouvait faire l'objet d'un débat. Et l'Assemblée nationale allait procéder au vote. Ce projet de loi devait aller... pour la seconde lecture devant le Sénat, qui devait aussi s'adonner au même exercice. Ce n'est pas hier même, ou aujourd'hui, ou après-demain que cette loi interviendrait. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Comme c'est un cas délicat, non prévu par la Constitution, faisons ce qui est simple. C'est pourquoi nous avons, même en soutenant notre motion, nous avons dit que c'est une demande inopportune. Inopportune pourquoi? La loi, le projet du budget qui nous est renvoyé pour la seconde lecture, mais là était que sur un aspect bien spécifique, c'est-à-dire l'affectation des recettes additionnelles. C'est un petit travail qui ne peut pas prendre 48 heures à notre commission. Et si ce travail nous est renvoyé, nous allons voter cette loi dans une journée et permettre à l'autre chambre d'examiner autant que nous et envoyer au chef de l'État pour qu'il promulgue la loi de finances, la loi définitive, s'il faut le dire en des termes vulgaires. C'est ainsi que nous nous sommes dit. L'État, dans sa continuité, va toujours opérer des dépenses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Très rapidement, honorable.
Il n'y a pas eu divergence de point de vue entre l'Assemblée nationale et le gouvernement en ce qui concerne le projet originaire. Mais dans le projet originaire, toutes les dépenses prévues et arrêtées n'ont pas trouvé de divergence. Et toutes les dépenses qui sont ordonnées par l'État pendant cette période délicates seront justifiées par les mêmes membres du gouvernement et insérées dans le budget. Voilà. Je ne pense pas que ça puisse poser un problème
au niveau du fonctionnement du gouvernement. Honorable Minaku, il y a Kadi Issa de Bukavu au sud Kivu qui dit oui. L'opposition a bien agi, sinon l'AMP était prête à voter pour ces crédits provisoires tout en sachant que c'était contre la Constitution. Bon, je crois que c'était pas tellement une affaire opposition AMP, d'autant plus que, comme je l'ai dit au départ, le fond de la plénière d'hier, la trame, comme je l'ai dit, c'était notamment cette affaire du ministre du budget. Mais par rapport à la question, si l'auditeur nous a bien suivi, mon point de vue, et le point de vue de bon nombre de juristes, même si celui de mon collègue est aussi logique, parce qu'il n'est pas de mauvaise foi dans sa démarche. Mais le point de vue, c'est que lorsqu'il y a un flou artistique dans une disposition, on nous a appris à la faculté de droit le mécanisme d'interprétation. C'est ça d'ailleurs le juriste. Ce n'est pas celui qui mémorise les articles, mais celui qui sait comment interpréter, selon certains principes que nous avons appris. Et lorsque l'on ne comprend pas tellement l'agencement entre différents alinéas, l'une des méthodes, c'est se poser la question « Qu'en voulait le législateur ?» Alors, je pose la question. Pensez-vous vraiment que le législateur congolais de la transition voulait en un seul moment que l'État puisse, à un certain moment, fonctionner sans une autorisation budgétaire de l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée nationale? Pas du tout. Ils ont agencé des alinéas un peu dans le copier-coller, parce qu'on n'a pas le temps, on peut interpréter les différents alinéas, de sorte qu'il y a un flou. Et face à ce flou, que fait le juriste pour interpréter? Il recherche la volonté réelle du législateur. Et en l'espèce, la volonté du législateur, c'était prévoir un mécanisme qui est traditionnel, qui est accepté dans tous les systèmes juridiques, pour que l'État, en période de non-budget et de non-droit, comme l'a dit le professeur, puisse quand même avoir une autorisation partielle. Honorable Minaku, peut-on considérer que le cabinet du chef de l'État, en renvoyant le budget, n'avait pas prévu ce cas de figure?
Le cabinet du chef de l'État, ou mieux, le chef de l'État lui-même, le président de la République, en renvoyant à une seconde lecture la loi budgétaire, a agi conformément à la Constitution. Il n'y a aucun problème. Il nous appartient à nous, Assemblée nationale, d'analyser ce renvoi quant à la procédure et au fond, selon la Constitution et notre règlement intérieur. Donc, je ne vois pas comment je peux, par rapport à cette question, répondre en lieu et place du cardinal du président de la République, surtout que nous savons, vous et moi, le peuple aussi, que la seconde lecture sollicitée par le chef de l'État est constitutionnelle.
Donc, vous pensez que ça bloque le fonctionnement du gouvernement ?
Le fait de n'avoir pas adopté la loi portant crédit provisoire gêne, parce que même pour un jour, même pour une heure, le gouvernement doit dépenser l'argent du peuple congolais à la suite d'une autorisation de celui qui a mandat du peuple congolais quant à ceux, à savoir l'Assemblée nationale. C'est ainsi que je pense qu'il y a problème, et pas plus tard qu'il y a quelques heures, le président du Sénat a abondé dans le même sens.
Professeur Ambroise Kamukuni, le non-examen de ce projet de loi empêche le fonctionnement du gouvernement pour l'honorable Minaku, ça ne pose pas de problème pour l'honorable Kambala. Il y a Robert Bahomé de Bukavu qui dit « Les conséquences de ce régime seront tout naturellement négatives sur le fonctionnement du gouvernement. L'Assemblée nationale devra rapidement réexaminer et adopter le projet du budget 2010 afin que le gouvernement en pâtisse davantage. » Ou alors, je souligne, ou alors proposer autre chose en attendant. C'est quoi cette autre chose, professeur?
Oui, mais vous avez compris, là.
Allô, professeur?
On écoute l'honorable Minaku comme l'honorable Kambala. Il s'agit de considérer que, sur le plan de fait, le fonctionnement du gouvernement, même si depuis le 1er janvier, le gouvernement a fonctionné comme ça, c'est d'une façon justement inconstitutionnelle que le gouvernement fonctionne. Quant à ça, s'agissant justement du budget. Allô?
Oui, professeur, vous êtes en ligne.
Ah oui, s'agissant du budget, mais le gouvernement ne peut pas engager de dépenses. Le gouvernement ne peut pas récolter de recettes sans se référer à une loi. De toutes les façons, le fonctionnement du gouvernement, nous parlons de l'état de droit. C'est un état qui fonctionne justement en tenant compte des normes préalablement établies. Maintenant, on amène le gouvernement à fonctionner et je suis tout à fait amusé d'entendre l'honorable Faustin Kambala, que je connais très bien et que je salue en passant, qui dit mais c'est depuis le 1er. C'est depuis le 1er janvier que le gouvernement fonctionnait dans ce sens. Donc, au Parlement, on semble se complaire d'un fonctionnement qui ne serait pas conforme à nos lois. Il y a effectivement un blocage qu'il faut beaucoup regretter parce que maintenant, le gouvernement peut engager des dépenses comme il l'entend. Parce que l'autorité budgétaire, le Parlement, sur quelle base cette autorité va-t-elle contrôler le gouvernement quant aux dépenses exposées pendant cette période? Certainement, on pourrait jeter des fleurs au gouvernement qui aura récolté plus de recettes que ne prévoira le budget. Mais quant aux dépenses, supposons que pendant cette période, les ministres s'octroient des salaires qui n'étaient pas prévus, qui ne pourraient pas être prévus par le budget. Et en ce moment-là, le ministre des Finances pourra dire, mais écoutez, vous n'aviez pas autorisé quoi que ce soit. Nous avons essayé de distribuer ces programmes pour que le gouvernement fonctionne effectivement. Que dirait l'autorité budgétaire qui n'a pas jeté de limites? Justement, la loi budgétaire consiste à mettre justement des barrières vis-à-vis de celui qui exécute le budget et tracer les lignes sur lesquelles ce gouvernement ou l'autorité qui est limitée doit se limiter.
Alors, professeur Ambroise Kamukuni, parce qu'on est dans un blocage, comment sortir de cette situation finalement?
Comment sortir? Mais bien sûr, c'est un problème maintenant pratique. Je disais tout à l'heure et je réaffirme que de toutes les façons, le rejet de ce qui a été demandé au Parlement, comme également la demande elle-même, ne sont pas d'emblée inconstitutionnels. Parce que ce qui n'est pas permis ou ce qui n'est pas interdit par la loi est supposé être autorisé.
Alors,
à ce moment-là, il faudra vraiment que chacun interprète de sa façon, mais la meilleure interprétation serait absolument qu'on soit plutôt positif.
Alors, professeur,
cette fois-ci, plus politique, très juridique.
Professeur, quand vous parlez d'une, quand vous dites qu'il faut être pratique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Si je peux faire marche arrière, malheureusement, ce n'est plus possible. S'il n'y avait pas cette animosité, en fait, comme l'a dit un de vos auditeurs, s'il n'y avait pas cette animosité entre le Parlement et le gouvernement, on aurait pu peut-être pencher vers la suggestion de l'honorable Minaku pour dire, il n'y a pas de flou, comme il le dit, il n'y a pas de flou, il y a un oubli, il y a une hypothèse qui a été oubliée, qui peut arriver dans la vie. Mais puisque cette hypothèse a été oubliée, comment interpréter en fait? Mais malheureusement, les députés n'ont pas eu cette présence d'esprit d'interpréter. Mais entre-temps, nous ne pouvons que déplorer cela maintenant. En pratique, il faudra arrêter effectivement l'anarchie. Parce que moi, je me dis que maintenant que le gouvernement fonctionne sans budget, sans loi autorisant les crédits provisoires, le gouvernement serait amené à fonctionner dans l'anarchie totale. Donc, il faudra qu'au niveau du Parlement, que les choses aillent très, très, très vite afin d'arrêter l'anarchie avant.
Merci, professeur. Honorable Kambala, vous allez réagir aux propos du professeur parce que je vous vois demander la parole avec instance. Jean-Pierre Ntamboué de Lubumbashi Katanga dit « Ces crédits provisoires sont-ils la première violation de la Constitution ?» Il se demande. Je pense que si ces crédits provisoires étaient en faveur des députés, ceux-ci n'allaient pas les rejeter. Honorable Kambala.
Merci. Crédit provisoire, comme budget proprement dit, c'est toujours pour la nation congolaise, puisque le crédit provisoire entraîne toujours la sortie, le décaissement des fonds publics, comme le budget lui-même. Il n'y a rien qui ne soit en faveur des députés.
Alors, comment sortir de cette crise, de cette impasse?
Tout à fait. Sortir de la crise, il faut, c'est un problème pratique.
C'est-à-dire,
d'abord, je dis ici, c'est ce que le poster a mis sur la bouche, ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas autorisé ou approuvé l'attitude du gouvernement à vouloir dépenser l'argent de l'État sans autorisation, c'est-à-dire sans budget. Non. Nous sommes dans une situation délicate où, depuis le 1er janvier, le pays a fonctionné jusqu'au 19 sans budget. Je suis allé dans une logique quelque peu pratique. C'est-à-dire quoi? On dépose sur la table de l'Assemblée nationale deux projets de loi. Un projet sollicitant les crédits provisoires. Un autre projet sollicitant l'adoption du budget avec des aménagements sur l'affectation des recettes additionnelles.
Telles que demandées par le chef de l'État.
Telles que demandées par le chef de l'État. Nous constatons que pour arriver à la promulgation de la loi accordant crédit provisoire, s'il y a plus de célérité, on peut mettre 4 à 5 jours. Et nous constatons en même temps que pour arriver à la promulgation de la loi de finances, tout en considérant les observations du chef de l'État, on peut nager entre 4 et 5 jours. Or, en y allant avec le budget proprement dit, on ne viole pas la Constitution et on n'est pas dans une constitution, dans une situation de non-droit. Or, avec les crédits provisoires, nous sommes dans une situation délicate de non-droit que toute personne peut interpréter à sa manière. Autant aller dans ce qui n'est pas compliqué. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Il faut directement aborder la loi. Arriver à la promulgation une fois pour toutes.
Voilà.
C'est une situation délicate.
Nous n'avons plus beaucoup de temps. Honorable Minaku, il y a Blaise Osongo, étudiant en droit à l'université du Kasaï à Kananga, qui dit « Le renvoi du budget au Parlement par le chef de l'État ainsi que le rejet de ce projet portant crédit provisoire par l'Assemblée nationale constituent des signes avant-coureurs d'une situation qui ne dit pas encore son nom. » En plus, il y a Fikiri Saïdi Papi d'Ovira qui dit « Si les députés de l'opposition et ceux de la majorité étaient toujours unanimes sur l'adoption des budgets depuis 2006, les conditions de vie des Congolais auraient déjà été améliorées. »
Bon, une situation qui ne dit pas son nom, alors comme la situation ne dit pas son nom, que dire? Bon, je crois que je suis plutôt satisfait de l'exercice démocratique dans notre pays, parce que toutes les hypothèses constitutionnelles, toutes les prérogatives des uns et des autres du président de la République, des députés nationaux, des sénateurs, de la justice, chacun use de ses prérogatives librement, sans contrainte. Et donc, mais pour le reste, pour moi, aujourd'hui, quelle est la situation pratique? Parce que je crois que c'est là l'essentiel pour ceux qui nous suivent. La situation pratique aujourd'hui, c'est malheureusement aller rapidement vers l'adoption du budget. Rapidement. Parce que, à mon avis, je peux aussi me tromper, mais je suis convaincu de ce que je dis, nous avons commis une erreur en rejetant les crédits provisoires. Et puisqu'il s'agit d'une décision d'assemblée, je ne vois pas comment nous allons revenir en arrière pour corriger ce qui aurait dû être fait. Mais en même temps, j'aimerais préciser que l'Assemblée nationale a écrit au Sénat pour faire constater la situation d'hier. Nous avons refusé de débattre de cette question parce que la plupart des députés considéraient que c'était inconstitutionnel. Mais le Sénat aujourd'hui a longuement débattu de la question et poursuivra le débat demain. Peut-être que là, nous pourrions imaginer une hypothèse, mais en tout état de cause, sachons que l'État est allié au toté. Même pour un jour,
abusé, je vous en prie.
L'État, ce n'est pas un jeu d'enfant. Même pour un jour, le gouvernement doit avoir l'autorisation budgétaire. Et cette autorisation budgétaire, c'est provisoirement les crédits provisoires. Il fallait qu'on l'accorde, à mon avis. Malheureusement, on l'a pas fait.
Alors, Paul Tchabou de Kananga au Kassai-Occidental dit « La décision du chef de l'État est judicieuse puisque la majorité l'induit souvent en erreur. Je prie le chef de l'État d'écouter aussi la voix du peuple et celle de l'opposition, honorable Minakou, très brièvement, et ce sera aussi votre conclusion. » Donc, je disais qu'il y a cet auditeur, Paul Tchabou de Kananga, qui dit « La décision du chef de l'État est judicieuse. » Puisque la majorité l'induit souvent en erreur, je prie le chef de l'État d'écouter aussi la voix du peuple et celle de l'opposition.
Oui, le chef de l'État a été élu au suffrage universel, direct. La majorité, le gouvernement actuel est l'émanation de la majorité. La politique du gouvernement, la politique de la nation est déterminée par le gouvernement de concert avec le président de la République. Donc, sous le plan logique, il y a une synergie entre le président de la République, le peuple et la majorité.
Voilà, nous entrons déjà dans la dernière partie en ce qui concerne les conclusions. Honorable Minakou, parce que vous avez la parole, votre conclusion.
Bon, je dirais que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ça rentre dans la vie démocratique d'un État à démocratie jeune, à démocratie naissante. Il n'y a pas lieu de dramatiser. L'essentiel, c'est que nous puissions mettre nos énergies ensemble pour que le budget soit adopté.
Professeur Ambroise Kamukuni, en 20 secondes, votre conclusion aussi.
C'est d'attirer simplement l'attention des députés et des sénateurs que si d'ici le 31 janvier, le budget n'a pas été voté, le dernier alinéa de l'article 126 qui autorise au chef de l'État à mettre en exécution le projet de loi de finances pourrait être rappelé à l'ordre. Ce qui pourra faire aboutir au fait que, pendant que les parlementaires seront en train de tergiverser, l'exécutif risque de lui donner le pied.
Merci, professeur honorable Kambala, votre conclusion.
Merci. D'abord, je dois rassurer le professeur que le budget sera adopté avant la fin de ce mois. Et en dehors de ça, je voudrais aussi dire un mot sur...
Très rapidement, nous sommes rapidement à la fin.
La démarche du Sénat, qui n'est pas aussi constitutionnelle, puisque quand il y a irrécevabilité d'un texte, une autre chambre ne peut pas statuer sur le même texte. Ça, c'est aller de violation en violation.
Cette émission est terminée. Vous pouvez la réécouter en rediffusion en FM demain jeudi, à 4h15, heure de Kinshasa sur Internet. C'est simple, retrouvez-la sur www.radiokapi.net. Guy Maté, Kevin Kouté et Maombi Moukoumi vous l'ont préparé.
Mimi Kindula, mise en onde, et Alain Irung l'a présenté sous la coordination de Martin Sebujangwe. Au revoir.